Bienvenue dans Focus Sahel, en direct de Washington sur VOA Afrique, avec Eric Manirakiza.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Focus Sahel qui vous offre une perspective unique sur la région. Chaque semaine, nous explorons les nombreuses facettes de la vie au Sahel. Direction ce soir au Niger où des inondations ont causé 217 morts, endommagé les infrastructures et affecté 350 000 personnes. Les autorités annoncent 12 milliards de francs CFA pour l'aide. Dans notre fait marquant de la semaine, nous revenons sur le massacre de plus de 100 civils à Barsaglogo, au Burkina Faso, survenu lors d'une attaque armée alors qu'ils creusaient des tranchées sous la protection militaire. Voyage au cœur de la migration clandestine au Burkina Faso, le rêve européen des jeunes de Béguédo et des communes voisines symbolise l'aspiration au succès social malgré les dangers de ce périple périlleux. C'est un reportage de Gilles Dasda. Nous nous rendrons ensuite au Mali où l'USAID et les autorités de Bamako ont célébré la journée internationale de l'aide humanitaire. Cette célébration a souligné le soutien crucial des États-Unis. Je suis ravi que vous vous joigniez à nous dans ce voyage de découverte et de dialogue. Encore une fois, bienvenue. Au Niger, les inondations ont causé 217 décès et d'importants dégâts matériels. Niamey était inaccessible pendant plusieurs jours. Plus de 350 000 personnes sont touchées. Le ministre des Transports annonce des travaux d'urgence pour rétablir la circulation de la route nationale 1. 12 milliards de francs CFA ont été alloués pour la gestion des crises. Reportage de notre correspondant Abdelrazak Idrissa.
Après trois jours de travaux de colmatage par des techniciens, le ministre des Transports a autorisé la reprise du trafic sur la route nationale numéro 1, coupée par les eaux à l'entrée de la ville de Niamey.
C'est des travaux d'urgence, mais de gros travaux vont intervenir pour qu'on ne revive plus cette situation où une grande ville, la capitale, soit coupée pendant des jours du reste du pays. On va prendre les mesures qu'il faut pour que les infrastructures nécessaires puissent être réalisées.
Dans la capitale, les habitants de plusieurs quartiers sont les pieds dans l'eau. Sur les berges du fleuve Niger, la montée du niveau des eaux annoncée par les services techniques a déjà débuté. À l'Ossagungu, par exemple, plusieurs dizaines d'hectares de rizières ont été engloutis.
Tout ce que vous voyez, ce sont des plants de riz. Nous étions en instance de récolte quand la digue a cédé. Ici, nous sommes plus de 200 producteurs. Par saison, moi, personnellement, je récolte en moyenne 300 sacs. C'est ce que je vois partir sous les eaux.
Avec l'aide de ses amis, ce producteur essaye de récupérer quelques graines pour pouvoir semer de nouveau lorsque les eaux se seront retirées.
Tous mes plants ont été envahis. Je n'ai pas de semences pour la prochaine saison. C'est pourquoi je suis rentré dans les eaux. C'est ce que j'ai pu avoir que je travaille actuellement afin de conserver les graines et attendre.
Selon les autorités, plus de 350 000 personnes sont affectées par ces inondations depuis le mois de juin. Pour gérer les conséquences et prévenir d'autres, elles ont alloué à un comité mis en place à cet effet 12 milliards de francs CFA sur fonds propres de l'État. Abdelrazak Idrissa pour VOA Afrique, Niamey.
Je suis en ligne avec Abdelrazak Idrissa qui a réalisé donc ce reportage. Razak, bonsoir.
Bonsoir Eric.
Alors, le gouvernement a-t-il détaillé comment les 12 milliards de francs CFA alloués seront utilisés pour gérer les conséquences des inondations? Y a-t-il des plans spécifiques pour soutenir les victimes et les aider à se rétablir?
Disons qu'il n'a pas spécifiquement dit comment est-ce que ces 12 milliards vont être gérés pour pouvoir prévenir donc d'autres inondations et gérer les conséquences de celles qui ont déjà fait ces plus de 200 personnes mortes et plus de 350 000 personnes sinistrées. Mais l'élément important à retenir dans la mobilisation de ces 12 milliards, c'est que c'est une première ici au Niger. De par le passé, lorsque ces inondations, le pays ayant connu plusieurs inondations ces dernières années, et dans ce genre de situation, les gouvernements tout de suite réunissent les partenaires techniques et financiers et leur demandent de venir donc gérer la situation. Donc c'était plutôt une innovation cette année que les autorités actuelles décident de prendre sur fonds propres de l'État 12 milliards de francs CFA, 2 milliards déjà de ce que la Commission de lutte contre la délinquance économique et financière a mobilisé. Ensuite, un réaménagement du budget, un collectif budgétaire dans lequel 10 milliards autres vont être payés pour gérer ces inondations. Donc voilà un peu l'élément important à retenir là-dessus. Mais pour ce qui est des détails, il n'y a pas eu de détails puisque l'annonce a été faite au cours du dernier Conseil des ministres. Et là, il faut noter aussi qu'un comité de gestion de ces inondations, des conséquences de ces inondations a été mis en place et il est présidé par le Premier ministre. Et donc c'est à ce comité que va revenir la charge de gérer ces 12 milliards pour pouvoir aider ces personnes et ces ménages qui ont été affectés.
Razak, les habitants touchés par les inondations ont-ils trouvé des abris temporaires ou une aide adéquate pour se protéger des conditions difficiles? Est-ce que ces inondations sont un phénomène inédit à Niamey ou ont-elles déjà eu lieu dans le passé?
Alors, sur le dernier aspect de la question, ce n'est pas la première fois. Déjà, l'année dernière, disons il y a deux ans, en 2022 plus précisément, il y a eu un double des inondations. C'est pratiquement toutes les années, avec, vous le savez, les effets du changement climatique, les inondations sont récurrentes, les fortes précipitations. Quand les pluies sont là, elles sont abondantes, ou bien quand elles ne sont pas là, c'est encore d'autres chausseresses qui sont sur la clé. Donc, ce n'est véritablement pas un fait inédit qui s'est produit cette année. Peut-être l'aspect inédit, c'est que cette année, on est à plus de 200. Donc, alors que les dernières grosses inondations que le pays a connues, on n'a pas atteint ce chiffre donc, en termes de pertes en vie humaine. Maintenant, oui, bien sûr, les habitants qui ont été affectés ont tout de suite pris des abris temporaires. Généralement, ils sont logés dans les établissements scolaires le temps de la rentrée. À la mi-septembre, début octobre, c'est comme cela que l'année débute ici au Niger. Mais il faut noter aussi qu'il y a deux jours, deux ministres, la ministre en charge des affaires humanitaires et son homologue de l'habitat ont identifié pour ce qui est de la capitale Niamey, trois sites où probablement des sinistrés pourront être relogés et l'aide nécessaire pourront leur être apportée. Donc oui, les populations qui sont pour l'instant affectées par ces inondations sont soit dans des établissements scolaires, soit chez des parents qui n'ont pas été affectés pour pouvoir attendre l'aide du gouvernement.
Merci à Abdelrazak Idrissa pour toutes ces précisions. Nous avons quelques commentaires de nos téléspectateurs qui ont réagi sur notre page Facebook. Pierre Awe du Bénin, il dit ceci: les autorités locales et nationales doivent sensibiliser les populations en utilisant les moyens de communication les plus accessibles tels que les réseaux sociaux, la radiodiffusion et la télévision. Le gouvernement devrait adopter un décret interdisant la construction et l'habitation sur les terres exposées au risque d'inondation. De plus, il est essentiel de tracer des caniveaux dans les zones résidentielles pour faciliter l'écoulement des eaux de ruissellement et ainsi réduire les risques d'inondation. Guillaume Valentin du Tchad, il dit ceci: à mon avis, la responsabilité est partagée entre l'État et la population. Ici en N'Djamena, il n'y a pas de caniveau pour canaliser les eaux et ceux qui existent ne sont pas entretenus, ce qui empêche l'écoulement normal des eaux. De plus, les usagers bloquent les bassins de rétention avec des ordures, aggravant la situation. Adamu Mazou, il dit ceci, je cite: même dans les pays développés, les inondations causent des dégâts, bien qu'ils soient souvent à mesure de les prévenir. Cependant, il s'agit d'un phénomène naturel qui échappe parfois au contrôle humain. Cela dit, c'est aussi une œuvre de Dieu. Ngario Josepha Donjamena, il dit, je cite, en ce qui concerne les inondations, les responsabilités sont partagées en N'Djamena au Tchad. Certains quartiers ne disposent pas de caniveaux pour évacuer les eaux de ruissellement, ce qui favorise les inondations. Dans d'autres quartiers, des caniveaux existent, mais ils sont obstrués par des ordures ménagères, aggravant ainsi le problème. Il est crucial de sensibiliser la population et de l'éduquer sur l'importance et l'entretien des caniveaux. Le gouvernement doit également s'engager avec le soutien de la population pour trouver des solutions à cette situation. Nous allons tout à l'heure essayer de joindre notre analyste qui est un expert en écologie. Nous allons essayer donc de le retrouver dans un moment. Nous allons donc passer à notre... Nous allons nous rendre directement dans le centre du Burkina Faso pour vous promener donc au centre de Begdo, et qui est une commune rurale réputée pour le fort taux de migration de ses habitants. Nous nous trouvons donc à Begedo ainsi que dans les communes voisines de Niago et Boussouma. Nombreux sont les jeunes qui aspirent à partir à la conquête de l'Eldorado européen, malgré les risques associés à la migration clandestine. Dans ce reportage, Gilles Dasda vous plonge dans ces localités où le voyage, notamment en Europe, est perçu comme le chemin vers une réussite sociale. Suivez.
Niaogo, commune située dans la région du centre-est du Burkina. Ce garage porte le nom Maison Italie, un nom en référence à l'Italie, pays où Hassan Gebre, propriétaire du garage, était allé à l'aventure. Passé par le désert du Niger jusqu'à l'Algérie avant de traverser la Méditerranée, Hassan Gebre a bravé les dangers pour rejoindre le pays de ses rêves en 2008, avant de revenir en 2019 pour ouvrir ce garage où il emploie 15 personnes.
Normalement, Italie là-haut, si tu rentres là-bas, si tu n'as pas de métier aussi, c'est la souffrance. Il faut avoir un métier pour aller là-bas travailler. Sinon, tu vas recommencer zéro encore. Jusqu'à tu vas connaître les métiers avant de travailler. On a trouvé une idée aussi d'envoyer les pièces ici un peu pour qu'on va travailler. Parce qu'on travaille ça là-bas un peu, on cherche aussi pour que nous on va trouver chez nous aussi.
Partir à l'aventure est difficile, admet Gebre. Mais les signes de réussite de certains émigrés poussent de nombreux jeunes à franchir le pas. La tentation du départ est aussi forte à Niaogo qu'à Boussouma, 30 km plus loin. Originaire de ce village, Abdulmanaf Gouem, la vingtaine, a abandonné l'école pour aller en Italie.
J'étais un élève, et puis avec le goût de l'aventure, par exemple, mes amis sont allés en aventure, ils ont traversé le désert pour rejoindre l'Europe. Cela m'a poussé aussi d'abandonner l'école pour rejoindre l'Europe aussi, mais ça n'a pas été du tout facile pour nous. Quand on a quitté ici, c'est pas par voie légale, c'est par voyage clandestin. Par exemple, on nous a transportés avec des pick-up, et puis ça n'a pas été facile aussi. Et tout le monde est serré, même si tu tombes là-bas, personne ne te regarde.
Niger, Algérie, puis Tunisie. C'est là-bas que son périple va s'achever, sur les bords de la Méditerranée.
Puisque de la manière dont on a vécu en Tunisie, ce n'est pas une vie du tout abordable. Parce qu'on a raconté des difficultés pas possibles.
Dans cette partie de la région du centre-est, de nombreux villages ont vu leurs jeunes partir à la recherche du gain. Dans ces localités comme Begedo, Niaogo, Boussouma, de grosses villas et autres infrastructures modernes financées par les émigrés ont poussé comme des champignons. Ces signes extérieurs de richesse ne sont que superficiels. C'est ce que pense Abdoulaye Bara,
Ce n'est pas ça le développement. Si tu dis ça ici, ils vont t'insulter. Mais d'ici 20 ans, on verra qu'on s'est vraiment mis en retard. Les grosses maisons ne sont pas le développement. Normalement, nos jeunes doivent avoir l'intention de mieux servir le Burkina.
Abdoulaye Bara est lui-même un ancien migrant revenu dans son village après plusieurs années pour se lancer dans la boucherie. Dans les rues de son village, nombreux sont les jeunes qui disent pourtant mettre de côté un peu d'argent pour tenter leur chance, en dépit des dangers qui jalonnent le parcours qui doit les mener vers ce qu'ils considèrent comme l'Eldorado. Gildas Dado, retour du Centre-Est, VOA Afrique.
Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations et influences étrangères, VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
Au Burkina Faso, plus de 100 personnes ont été tuées samedi à Barsalogo, selon plusieurs sources. Les victimes, des civils pour la majorité, mobilisés par l'armée pour creuser des tranchées, ont été attaqués par des hommes armés. Le gouvernement n'a pas encore confirmé le bilan exact. C'est notre fait marquant de la semaine que nous abordons avec notre collègue Bagassi Koura, chef du service Bambara, ici à la Voix de l'Amérique. Bagassi, bonsoir.
Oui, bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Alors Bagassi, vous avez suivi le développement de cette information depuis samedi. Comment les médias locaux couvrait-il cet événement tragique et quelles sont les principales informations rapportées jusqu'à présent?
Alors, il faut dire que ce n'est pas la première attaque qui a quand même secoué le Burkina. Il y a eu d'autres avant, mais c'est la première fois qu'on voit cette difficulté dans le traitement de l'information. Les médias, que ce soit des médias locaux ou même internationaux, comme La Voix de l'Amérique, par exemple, c'est très difficile d'avoir accès aux sources. Le gouvernement, jusqu'à présent, non seulement il avait d'abord tardé à réagir, et ensuite le traitement qui en effet vient essentiellement des médias publics, la télévision publique, l'Agence nationale d'information du Burkina Faso, qui couvre non pas le drame en soi, mais l'activité du gouvernement autour du drame. La visite des blessés à l'hôpital de Kaya, par exemple, est couverte. C'est là-bas qu'on arrive à entendre des officiels se prononcer sur le drame, sans mentionner le nombre de blessés, ni le nombre de morts, bien sûr. La visite, finalement, hier, sur le site même de l'incident, et tout ça s'est couvert à travers l'activité des 3 ou 4 membres du gouvernement, y compris le chef d'état-major de l'armée. Mais essentiellement, les sources ont peur, les populations ont peur de s'exprimer. Ce qu'il faut dire, Eric, c'est que c'est comme si ce moment avait été préparé minutieusement par le gouvernement depuis des mois à menacer des journalistes. Il faut rappeler que près d'une dizaine de journalistes sont en prison ou enlevés au front, y compris Serge Atiama Oulon, le grand journal d'investigation L'Événement, dont le directeur a été enlevé chez lui par des hommes cagoulés. Donc c'est vraiment la peur, et jusqu'à présent, on ne sait pas le bilan, et peut-être qu'on ne le saura jamais, parce que jusqu'à présent, le gouvernement ne se prononce pas, et l'incident a eu lieu depuis samedi. Jusqu'à ce jour, on n'a pas encore aperçu Ibrahim Traoré, le capitaine qui dirige le Burkina Faso. Il n'a pas dit un seul mot, même si par le passé, on l'a vu envoyer des mots de condoléances pour moins grave que ça dans d'autres pays.
Il s'est représenté par son gouvernement, quelques membres du gouvernement qui ont effectué une visite sur le terrain. Bagassi, est-ce que les journalistes ont-ils eu l'opportunité de se rendre sur le terrain pour recueillir des témoignages des survivants ou des membres de la communauté touchée? Quelles difficultés ont-ils rencontrées dans cette démarche?
Non, je ne connais personne qui, en tant que journaliste, a pu avoir accès au lieu du drame, a pu avoir accès aux victimes. Comme je l'ai dit, c'est la télévision nationale du Burkina qui suit les membres du gouvernement et qui couvre leur activité. Et même quand les villageois et les témoins sont sur place, on ne leur tend pas le micro. C'est ce que les ministres disent, c'est ce qui est servi au public. Et donc jusqu'à présent, et peut-être cela va changer, nous avons l'espoir en tout cas que le gouvernement va se rendre compte qu'il y a une nécessité d'informer, aussi rassurer l'opinion. Moins il l'informe, plus les rumeurs prennent le dessus, notamment sur les réseaux sociaux où il y a toutes sortes de chiffres qui sont balancés. Et je pense que le gouvernement n'a pas intérêt à laisser d'autres personnes donner des chiffres à sa place, et ce serait bien que des professionnels ou même le gouvernement lui-même puisse avoir accès aux bonnes sources et puis pouvoir faire leur travail. Et cela va aider la société parce que le niveau des rumeurs qui est là est insoutenable.
Oui, vous avez pu parler à certaines personnes sur place. Qu'est-ce que ces gens vous ont dit?
Ah, c'est le choc total, hein. C'est le choc parce que n'oubliez pas que on a un régime militaire qui est là parce qu'il a promis que lui avait la solution à l'insécurité. Ça fait 2 ans et ce drame vient matérialiser l'échec, si on peut dire, pour certains, pour beaucoup. Ils disent que si les choses allaient dans le bon sens, pourquoi est-ce que tout ça est encore possible à quelques 100 kilomètres de la capitale? Ce n'est pas Kidal. Kidal, c'est à 1000 kilomètres de Bamako. Kaya, c'est à quelques 100 kilomètres de la capitale. Pour un pays qui a exposé ses drones, qui a exposé ses avions de guerre, les gens se posent des questions et se demandent, est-ce qu'on nous a vraiment dit la vérité? Et ce qu'il faut savoir, il y a eu ce drame, bien sûr, mais il y a eu une succession de drames presque chaque 2 jours. Par exemple, je vous donne le cas, le 25 août, juste quelques 2 jours après ce drame, il y a eu l'attaque à Sanaba, 26 morts. Avant ça, les gendarmes à Garci, dans la boucle du Mouhoun, qui sortaient d'une relève, ont été attaqués. Et on parle de 11 gendarmes tués. Ça, c'était le 13 août. Et puis, il y a eu l'attaque de Bungou, 140 militaires tués, plus de 50 civils, dont 32 chauffeurs ont été tués. Et tout ça, ce mois d'août seulement. Et du coup, et ça intervient au moment où le gouvernement il dit qu'il contrôle presque la situation, qu'il contrôle 69% du territoire. Les gens se demandent si une telle attaque peut avoir lieu à 1 heure de la capitale. Où sont ces 69% du territoire que nous contrôlons? Donc, beaucoup de questions ce soir.
Oui. Et Bagassi, VOA Afrique, a pu parler à l'évêque de Kaya. C'est Monseigneur Théophile Naré qui parle d'une tragédie d'une ampleur sans précédent. Vous avez écouté ce qu'il a dit, grosso modo, qu'est-ce qu'on peut garder de son message?
Oui, c'est un homme profondément affecté, un homme touché qui est au sein d'une communauté qui est profondément bouleversée. Il a décidé de prendre ses responsabilités. Je pense que c'est la seule personne en dehors des membres du gouvernement qui a osé prendre la parole et qui parle. Il dit, je ne peux pas me taire. Ce qui nous arrive, c'est extrêmement grave. Il faut qu'on reste solidaires, des mots de solidarité. Il appelle les gens à plus de solidarité, bien sûr, et appelle le gouvernement à prendre des mesures pour que ce genre de choses ne se passent pas. Et il a même souligné que les autorités avaient été alertées un peu avant le drame. Donc, jusqu'à présent, c'est la seule voix qui a osé vraiment s'exprimer de la sorte venant de la zone de Kaya. Il y a eu plein d'autres communiqués. Essentiellement, ces différentes sorties appellent à plus de solidarité. Comme on peut imaginer, ça aurait été dans n'importe quelle autre nation dans le monde, ce sera le même message de solidarité, de réconfort et tout. Mais les questions qui restent posées ne sont pas discutées publiquement. Les gens, quand vous les appelez, ils ont énormément de questions. Ils se demandent comment cela a pu arriver avec toutes les assurances qu'on nous a dites depuis toutes ces années. Et puis, bien sûr, j'ai parlé de fake news. Il y a toute cette théorie du complot sur Internet qui accuse Damiba, l'ancien chef de la junte qui a été destitué par Ibrahim Traoré, qui serait dans une œuvre de vengeance. Il y a bien sûr les Occidentaux qui veulent se venger d'un pays qui réclame sa souveraineté. Et tout ça, bien sûr, avec aucun signe de preuve.
Merci beaucoup, Bagassi Koura, pour toutes ces précisions. Je dois souligner que une journée de deuil diocésaine va être observée demain à Kaya. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. USAID, principal bailleur humanitaire au Mali, contribue à 30% du plan national de réponse humanitaire en investissant plus de 100 millions de dollars annuellement. Avec ses 20 partenaires, elle soutient les populations vulnérables à travers des projets de sécurité alimentaire, de création d'emplois pour les jeunes et de consolidation de la paix. En 2023, ces actions ont bénéficié à plus de 3 millions de Maliens. C'est un reportage de Mohamed Danyoko.
En compagnie des autorités de la transition malienne, l'ambassade des États-Unis et l'USAID ont célébré la journée internationale de l'aide humanitaire. En tant que premier partenaire de l'État malien dans le domaine de l'humanitaire, l'USAID et ses ONG partenaires ont tenu à partager les résultats de leurs actions en faveur des couches vulnérables.
Nous contribuons beaucoup au plan national de réponse humanitaire au Mali, à hauteur de plus de 30%. Donc l'USAID est le plus grand bailleur humanitaire au Mali. Et en moyenne, notre planification budgétaire se base sur une année. Donc chaque année, depuis 2020, nous avons plus de 100 millions de dollars américains investis dans l'aide humanitaire au Mali.
Une enveloppe de 80 millions de dollars est allouée au projet Albarka, mis en œuvre dans les régions de Badiangara, Douanza, Mopti et Gao, pour lutter contre l'insécurité alimentaire et venir en aide aux victimes des conflits.
Actuellement, nous avons plus de 1500 jeunes que nous accompagnons dans le cadre de la création de l'emploi. On les a déjà placés en mentorat d'apprentissage, dotés également en matériel, équipement, pour les permettre de commencer des activités génératives de revenus qui sont portées dans la zone d'intervention du projet.
Finançant actuellement en grande partie un projet d'incident de protection de l'Association malienne pour la survie au Sahel, le financement de l'USAID, selon les responsables de cette association, répondent aux besoins des populations.
Vraiment, toutes les actions qui sont financées par l'USAID contribuent vraiment à promouvoir le vivre ensemble et à mettre les populations dans leurs droits.
Bénéficiant de l'appui de l'USAID sur plusieurs de ses programmes depuis 2016, Catholic Relief Service a, de 2016 à 2022, perçu 33 millions de dollars qui ont soulagé 604 000 personnes.
Le partenariat avec l'USAID se porte très bien. On a de très bonnes relations avec le gouvernement américain et plus globalement les États-Unis d'Amérique. CRS, depuis sa venue au Mali en 1999, nous travaillons beaucoup, nous avons des projets financés par le gouvernement américain. Par exemple, nous sommes financés par le gouvernement américain dans le domaine de la santé, à travers le projet Reach Malaria. Nous avons le projet aussi de l'éducation, Food for Education, financé par l'USAID.
Pour la seule année 2023, les États-Unis, à travers l'USAID, ont financé l'humanitaire au Mali à hauteur de plus de 120 millions de dollars au bénéfice de plus de 3 millions de Maliens. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
C'est la fin de cette édition de Focus Sahel. Merci à notre public qui nous a accompagnés dans ce voyage au Sahel. Merci également à nos invités qui ont partagé avec nous leurs expertises et leurs points de vue. Enfin, je tiens à saluer tout particulièrement nos correspondants qui nous ont apporté ces nouvelles de la région. Eric Manirakiza a été avec vous au micro. Gisèle Morissin et Trésor Matondo ont assuré la réalisation et la production. Nous vous remercions d'avoir écouté Focus Sahel et nous vous disons à très bientôt. Au revoir.
C'était Focus Sahel. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers l'une des régions les plus complexes de la planète.
Vos points de vue, vos défis, vos récits et vos contributions sont les bienvenus.
Laissez-nous vos commentaires sur voaafrique.com ou sur notre page Facebook.